soir sur Radio G. Bienvenue, c'est Quasar on the Air, l'émission de l'association Quasar, Q-U-A-Z-A-R d'Angers et du Maine-et-Loire, puisque c'est aussi cette association, ce qu'on appelle le centre LGBTI+ d'Angers. LGBTI+, l'acronyme pour lesbienne, gay, bi, trans et intersexe plus. Eh bien, le plus, ce sont toutes les autres identités, de aromantisme à tout ce que vous voudrez, pansexuel, et tout, nous sommes là pour tout le monde. Une émission toutes les deux semaines en alternance avec Tonix Live sur Radio G, et c'est aujourd'hui notre tour. Et vous l'aurez constaté, nous sommes le 2 décembre, le lendemain d'une date fameuse, celle du 1er décembre, où il a été question énormément de VIH, mais aussi d'IST, de PrEP, d'hépatite aussi, puisque c'est la question fondamentale de la santé de toutes les populations dont j'ai parlé, y compris hétérosexuelles, ma foi, évidemment, puisque le VIH, la contamination à VIH, ne concerne pas que nos publics, mais bien toute la population. Eh bien, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Nous allons accueillir différents invités. Et le premier d'entre eux qui nous a rejoint déjà, c'est Florian qui est là. Bonjour Florian.
Bonsoir.
Alors toi, tu es trésorier de Aide Angers.
C'est ça.
Je ne me suis pas trompé.
C'est ça, c'est bien.
Voilà, tu comptes les sous, mais tu connais aussi le sujet. Et tu viens nous parler plus exactement de ce qui va se passer samedi, non pas dans l'organisation, mais dans le sens que cela va avoir. Qu'est-ce qu'un TROD ? Puisque samedi après-midi, dans les locaux de Quasar, toutes les personnes qui le souhaitent de la communauté LGBT sont invitées à nous rejoindre au 15 rue de Jérusalem pour pouvoir participer à un TROD. Donc tu nous diras ce que c'est, à quoi oui. ça sert. En tout cas, on dit déjà que c'est anonyme, gratuit, et que tout se passe en totale confidentialité.
C'est ça.
On est bien d'accord. Donc, sur ce point, eh bien, nous allons avoir un grand exposé sur les chiffres, puisque Éric Billot, qui est le président du Corévi Pays de la Loire, va nous rejoindre au téléphone tout à l'heure. Nous allons le contacter, et puis il va nous donner les chiffres nationaux et nous parler surtout de la situation de la région Pays de la Loire, parce que ça nous intéresse au premier chef, et on peut dire qu'il y a une baisse du nombre de nouvelles contaminations, mais aussi parallèlement du fait de la Covid, eh bien une baisse des dépistages, et c'est toute la question, et c'est pour ça que nous nous lançons très gentiment mais très fièrement dans les dépistages, parce que ce sont des opérations absolument nécessaires. Alors, ce que nous allons faire, comme à chaque fois, et notre habitude, eh bien, elle se révèle tout à fait positivement en phase, c'est de passer directement, maintenant, au programme de la semaine, avec la possibilité pour nous de prendre des nouvelles, eh bien, de ce que nous allons faire, et l'agenda, très exactement, de Quasar en cette partie d'émission, l'ouverture de l'émission avec l'agenda du mois de décembre. Alors, donc, samedi, nous disions, alors notez bien les horaires, 13h30, 16h30, l'après-midi de dépistage, TROD, VIH, IST, dans les locaux de Quasar. Vous noterez également que, comme tous les samedis du mois de décembre, sauf celui du 25, là c'est repos pour tout le monde, les samedis 4, 11 et 18 décembre, eh bien c'est le temps de permanence de 17h à 19h au 15 rue de Jérusalem, entre l'avenue Pasteur et le boulevard des Deux Croix. Alors là, tout le monde y est invité, évidemment, tout le monde y vient, pose ses questions. La semaine dernière, c'était une famille avec des enfants trans, et puis d'autres viennent nous poser des questions sur le droit, sur la santé. Donc tout le monde est le bienvenu. Le lundi 6 décembre, ce sera la première réunion, la pré-pride numéro 1 pour la saison 2022. Et ça se déroulera dès 19h à l'Entre-deux, le bar rue Lyonnaise. Autrement, mercredi 8 décembre, c'est la réunion du pôle droit des étrangers à 18h. Et il y en aura une autre également le 20 décembre, lundi toujours, la réunion du pôle droit des étrangers. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir passer une tête, prendre des informations et on vous expliquera de quoi il est question. Autrement, le vendredi 17 décembre, alors c'est une nouveauté que le conseil d'administration de Quasar a décidé, c'est de ne plus organiser de convivial avec le risque nouveau variant, la problématique de manger tous ensemble, même si passe sanitaire il y a, c'est plutôt de s'orienter vers des ciné-clubs, c'est-à-dire diffusion de films ou de documentaires et puis échange avec celles et ceux qui seront présents le soir en question. Donc on se donne rendez-vous à partir de 20h. Et puis samedi 18 décembre, notez bien, ce sera le nouveau numéro de Transat, le groupe de parole pour, par les personnes transgenres, à genre et non binaire, l'horaire 15h-17h, toujours dans les locaux de Quasar, 15 rue de Jérusalem. Et puis enfin, sachez que nous aurons deux autres émissions dans le mois de décembre, ce Quasar on the air, ce sera le 16 et le 30. Alors on peut se le dire dès maintenant, le 30, on fera un peu la fête, quoi. Hein, on se changera les idées, on arrêtera d'être un peu sérieux et de parler toujours un peu de sujets qui peuvent fâcher. On se détendra.
Ça, c'est une chanson que j'aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite.
On ouvre l'émission avec Barbara.
Si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour, sida, sida, né. Elle est année d'amour, à mourir d'aimer. Ils sont morts d'amour, d'amour, sida, né. Oh, sida, 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 danger, sida. Sida, amour à mort. Oh, sida, sida, assassin recherché. Mais qui a mis l'amour à mort? Mon amour malade, ma douleur d'aimer. Mon damné d'amour, sida, sida, né. J'en mourrai peut-être, sida assassiné. Oh, sida, sida, comme le furet, passez par ici, repassez par là. Oh, sida, sida, assassin recherché. Mais qui a mis l'amour à mort? On rêvait d'amour, à mourir d'aimer. Et l'emmerde d'amour, sida, sida, né. Maladie d'amour, où l'on meurt d'aimer. Seul et sans amour, sida, abandonné. Si s'aimer d'amour, c'est mourir aimé, sans mourir d'amour, sida, sida, né. L'étalé d'amour, à vouloir s'aimer, ils sont morts d'amour, sida, assassiné.
On ne pouvait décemment pas ouvrir cette émission sans Barbara, ce direct capté au Théâtre du Châtelet en 1997. Si d'amour à mort, Barbara, pour illustrer notre thématique de la soirée et de l'émission. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons un premier invité au téléphone qui nous a rejoint et grand merci à lui de nous consacrer du temps sur son activité à la fois personnelle et professionnelle. C'est Éric Billot. Bonsoir Éric. Éric qui nous entend ou qui ne nous entend pas. Voilà, on l'entend maintenant. Éric, bonjour.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Eh bien, on va bien. Alors, Éric Billot, on vous a invité parce que vous occupez au sein du Corévi un poste d'importance, puisque vous en êtes le président. Je pense que ce qui serait bien, puisque nous connaissons, mais ceux et celles qui nous écoutent, peut-être ne savent pas ce que c'est que le Corévi. Alors, si on avait à le définir, ça veut dire quoi déjà, l'acronyme Corévi ?
Alors, le Corévi, c'est la coordination régionale de lutte contre le VIH, les IST, les hépatites, dans une approche globale de santé sexuelle.
D'accord. Et c'est basé, on est bien d'accord, c'est sur la région des Pays de la Loire, hein, les 5 départements.
C'est sur la région de la Pays de la Loire, avec des missions qui sont de s'assurer de la coordination des acteurs qui participent à la lutte contre ces affections. De s'assurer aussi de la qualité de la prise en charge des personnes qui sont affectées et de faire de l'épidémiologie pour être capable d'avoir des informations sur comment ça se passe dans notre région.
Et alors, le Corévi existe sous sa forme là depuis très longtemps. C'est une structure qui est ancienne ou récente ?
C'est une structure qui date de 2009. Donc ça va faire 11 ans à peu près.
11 ans, d'accord. Okay.
Qui survit quand bien que mal aux restrictions budgétaires de droite et de gauche.
Mais voilà, c'est ça. Alors, qui sont les personnes qui participent au Corévi ? Il y a des médecins, comme vous-même qui êtes médecin infectiologue au CHU de Nantes, mais est-ce qu'il y a des structures, des associations ?
Bien sûr, alors il y a d'autres médecins, il y a des institutions, des centres hospitaliers, des structures du milieu associatif, du milieu médico-social, et puis il y a un collège qui représente les patients également.
Donc on peut aussi préciser, parce que nous forcément on le sait puisqu'on en fait partie, qu'il y a un collège spécialement LGBT avec un certain nombre d'associations dont AIDE, Quasar et le NOSIG et plein d'autres pour les questions liées au public LGBT. Une fois qu'on a précisé que ce qu'était le Corévi, son action principale, c'est cette structure, ce comité qui le décide, ou est-ce que ce sont des décisions qui viennent de Paris et qu'elle doit appliquer ?
Alors, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, il faut savoir qu'en France, il y a une stratégie nationale de santé sexuelle qui existe depuis maintenant plus de 3 ans, avec une deuxième feuille de route qui vient de sortir à l'occasion du 1er décembre, et donc qui donne un petit peu, qui trace la voie. Qui permet de se dire, bon, ben voilà, il faut aller un peu dans ce sens-là ou dans celui-là. Et puis, à partir de ça, on essaye de décliner en région les actions qui nous semblent possibles de faire pour aider à la mise en œuvre de cette feuille de route.
C'est-à-dire que vous êtes à la fois autonome et dans un axe qui vous est indiqué.
Voilà, on n'invente pas une politique nationale. Donc on y souscrit, mais c'est vrai que au niveau régional, en fonction de l'épidémiologie et de la façon dont les choses se passent localement, on est obligé d'adapter. Mais ceci se fait également avec la participation de l'Agence régionale de santé qui a les sous et donc qui va déterminer avec nous, quels sont les objectifs prioritaires ?
Salariés ou que des personnes déjà actives dans le monde de la médecine ?
J'ai pas compris le début de la question.
Il y a des salariés au sein du Corévi ?
Oui, oui, il y a des bénévoles, enfin la plupart des gens sont bénévoles, mais il y a une coordinatrice, il y a une secrétaire, et puis il y a des techniciens d'études cliniques qui participent au recueil épidémiologique. Et donc tout ce petit monde-là essaye de faire vivre cette structure.
D'accord, et d'avancer dans le même sens si possible, effectivement. Alors, si on vous a invité ce soir, c'est parce que la date s'y prête particulièrement, puisqu'hier, officiellement, des chiffres ont été annoncés sur la situation de l'épidémie à VIH, entre autres. Et alors, qu'est-ce que vous, le président du Corévi Pays de la Loire, pouvez nous en dire sur la réalité, la tendance et la signification de ces résultats?
Alors, c'est des chiffres un peu particuliers cette année, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu une pandémie.
Il paraît.
Est-ce qu'on dit. Et l'année 2020 a été un peu perturbée par cette pandémie. Donc, du coup, il s'est passé pas mal de choses. D'une part, il y a eu une diminution du nombre des relations sociales. Il y a eu aussi une sorte de comment dire, de pas de détournement, mais de détournement des activités de certaines structures pour s'occuper du Covid, et notamment les services de maladies infectieuses, mais aussi les CEGID ont été un petit peu bousculés par ça. Et puis le fait qu'il y ait eu des restrictions de mobilité et tout ça a fait qu'il y a eu moins d'actions d'aller vers, moins de dépistage, moins de... Donc on table sur moins 22% de dépistage des infections moins 17%,
oui,
de dépistage des infections à VIH, mm-hmm. Et donc moins 22% de séropositivité découverte. Et la question qui se pose en fait actuellement, c'est est-ce que on assiste à véritablement un frein dans l'épidémie, ce qui serait formidable.
Ah oui, ça on pourrait crier de joie. Hein.
Ah oui. Ou est-ce que ce sont les circonstances avec notamment des déclarations obligatoires qui ont été mal remplies parce que les médecins étaient débordés et ils s'occupaient du Covid et tout ça. Est-ce que ce sont des chiffres qui sont fragiles? Est-ce que ce sont plus les difficultés au dépistage qui ont conduit à moins de découvertes de séropositivité, ou est-ce que ce sont aussi, parce qu'il faut bien le dire quand même, que plus de la moitié des séropositivités découvertes, hein, en général, ce sont liées aux migrants. Et en 2020, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup moins de migration.
Oui. C'est
parce que les frontières ont été fermées. Mmh. Et du coup, on peut se demander si la baisse de découverte de séropositivité n'est pas aussi liée à ça, au fait qu'il y avait moins de migration. Donc, vous voyez que c'est difficile actuellement de se faire véritablement une idée sur la véracité de ces chiffres. Cela dit, on constatait depuis quelques années, quand même, une baisse de l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, dans la population des HSH. Et donc, on peut se demander si, à l'occasion de cette année où il y a eu, d'après l'étude ERAS, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude qui a été faite par Santé publique France, auprès d'un échantillon d'hommes qui ont des rapports avec des hommes, pour voir un petit peu quel avait été l'impact du Covid sur leurs relations sexuelles, on s'est aperçu quand même qu'il y avait une nette diminution des relations pendant cette période. Et donc, on peut se demander s'il n'y a pas eu, effectivement, un peu moins de contamination. Et du coup, cette tendance à la baisse qu'on observe chez les homosexuels masculins pourrait éventuellement se confirmer à cette occasion, ce qui serait formidable.
Alors oui, mais on précise bien que HSH, dans les acronymes que nous utilisons fréquemment, veut bien dire homme ayant des relations sexuelles avec les hommes. Donc on parle souvent à tort d'un public gay, mais souvent il y a des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes qui ne se définissent pas eux-mêmes comme étant gays, ça c'est un point. Donc, fort de ces remarques, vous nous disiez moins 22% de nouvelles contaminations. On rappelle que les autres années, le chiffre tournait autour de 6000 cas approximativement. Donc là, on est autour de 4800 et quelques contaminations nouvelles. Et puis moins 17%, comme vous le disiez, de dépistage en moins sur l'année. Néanmoins, il y a quand même des points qui sont importants, comme également un manque de dépistage global, comme vous le disiez, mais sur les IST aussi, on voit bien qu'il y a une diminution des infections sexuellement transmissibles. Et ça concourt du même constat, peut-être, non ?
C'est exactement la même chose. Ce n'est pas une diminution des infections, c'est une diminution des dépistages.
On est d'accord, oui, c'est bien ce que je veux dire.
Et donc, on ne sait pas sur les infections, on attend de voir, parce que vous savez que les IST sont souvent des infections qui sont asymptomatiques et qui peuvent être présentes sans qu'on s'en rende compte. Donc, on peut très bien les porter pendant pas mal de temps sans le savoir. Ce qui les rend dangereuses, d'ailleurs, et qui incite à proposer le dépistage. Et le mot d'ordre actuel, c'est dépister. Justement pour pouvoir les identifier. Et donc on a moins 6% de diagnostic de dépistage des infections sexuellement transmissibles style chlamydia, gonos en ville, et moins 30% dans les Cégides, parce que les Cégides ont été touchés cruellement par cette affaire de Covid.
Alors, ce qu'on veut dire par là, dans les Cégides, soyons bien clairs, ça veut dire que certains Cégides ont été quasiment fermés, peut-être, mais ça veut surtout dire que le personnel des Cégides était, lui, déplacé pour l'activité et aider sur la lutte contre le Covid. Hein, c'est bien ce qu'on dit, là, dans cette remarque. D'accord, ok.
Tout à fait.
Et sur Angers, effectivement, c'est là que c'est mis en place au Cégide d'Angers, dans la partie du CHU, près du service des maladies infectieuses, la mise obligatoire sur rendez-vous, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, ce qui rend l'accès peut-être moins facile pour certaines personnes, mais là on ne peut pas y couper. Enfin, je veux dire, ça paraîtrait complètement infaisable autrement, en tout cas dans l'organisation actuelle, vu que l'hôpital est quand même très surchargé pour les raisons que l'on sait et pour les autres pathologies que le Covid. Revenons-en aussi à un autre point de ces chiffres résultats 2020 que vous donniez, moins 22% de nouveaux cas, moins 17% de dépistage. Il y a eu aussi un coup de frein sévère sur la PrEP. Alors peut-être que vous pourriez nous rappeler la définition que vous, médecin infectiologue, donnez et que tout le monde donne à la PrEP, et l'importance de constater qu'il y a une diminution, parce que ça a des répercussions par rapport au public ciblé par la PrEP que vous allez nous rappeler.
Donc la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire c'est la possibilité de prendre un médicament avant les rapports sexuels pour éviter de contracter le VIH. Alors ça protège que du VIH, on est bien d'accord. Par contre, c'est vrai que ça protège très efficacement, puisque ça protège presque mieux que le préservatif du VIH. Donc, c'est quand même quelque chose de très efficace et qui, jusqu'à présent, est proposé aux personnes qui ont beaucoup de partenaires et qui prennent beaucoup de risques. Alors, c'est une définition qui est un peu historique maintenant, on va dire. C'est-à-dire que ça a commencé par le milieu gay, parce que c'est vrai que ces personnes avaient des risques importants de contracter l'infection. Et pour mettre en évidence l'efficacité de la PrEP, il fallait des études sur des populations qui avaient un risque important. Et donc, il a été proposé de les associer à ça. Et du coup, on est resté un petit peu sur cette idée. C'est-à-dire qu'il suffit... Enfin, il faut vraiment quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Or, on peut très bien imaginer que, à l'occasion d'un week-end ou ou de vacances ou de quoi que ce soit, on puisse avoir besoin de la PrEP pendant quelques temps et pas de façon définitive pendant une année ou deux, donc, et pas avoir besoin de prendre un comprimé tous les jours, mais seulement dans des périodes où on va avoir des rapports un petit peu plus fréquents et avec des personnes un peu différentes. Donc, du coup, ça élargit un petit peu la population qui pourrait en bénéficier. Et ce qu'on constate effectivement, c'est qu'en 2020, il y a eu un gros coup d'arrêt à la PrEP.
Voilà.
Mais là encore, dans l'étude ERAS, on s'aperçoit qu'il y a eu moins 59% de recours à la PrEP parce qu'il y avait moins de rapports sexuels pour une population qui en bénéficiait auparavant. Et donc, la diminution de la PrEP, elle n'est pas uniquement liée à l'incapacité à en bénéficier. Elle est liée aussi au confinement et à la diminution des relations sociales.
Et relations sexuelles aussi, puisque une étude, dont on pourrait critiquer le résultat, mais qui a été réalisée sur un échantillon assez important de plus de 3000 personnes, donnait quand même une diminution de plus de 14% des relations sexuelles, au moins dans les déclarations faites par les personnes. Et on imagine bien dans les conditions de confinement, de stress, parce que on va se le dire quand même, ça a saisi tout le monde, ce premier confinement. On n'avait jamais vécu, nos générations en tout cas, une pareille situation, et on peut imaginer que l'activité sexuelle pour certains peut-être, mais l'enfermement social que ça entraînait avait d'autres inquiétudes, et que ça portait moins effectivement à la gaudriole éventuellement, quoi. Et d'ailleurs,
il y a eu aussi des répercussions sur la santé mentale, hein,
exact,
qui ont été bien identifiées et donc, c'est pas uniquement la santé sexuelle qui a été touchée. Alors, par contre, cette diminution des rapports, le confinement avec un conjoint qu'on ne supporte plus au bout de quelques temps, tout ça, ça s'est vu par l'augmentation des violences conjugales, qui peuvent arriver entre gays d'ailleurs, et ça s'est vu également par la baisse de la natalité. Il y a moins 13% de natalité en 2020. Donc en fait, c'est vrai que pour les gays, pour les hétéros, pour tout le monde, quoi.
On passe un temps absolument intéressant avec tous ces échanges là sur Radio G dans Quasar on the Air. Ce que je vous propose, Eric, comme nous avons encore pas mal de choses à nous dire, c'est qu'on fasse une toute petite pause et on se retrouve dans quelques minutes, juste le temps pour nous d'un titre qui va nous rappeler un titre actuellement joué assez unanimement sur les ondes. A tout de suite, Eric. Ne me dites pas Mylène Farmer, ce n'est pas elle. Mais par contre, c'est l'original. There she was like a picture. There she was just the same. There she was, he just had to know that she had forgot his name. Bon, Florian, tu me disais c'est quoi ? Et ça, tu connais quand même.
L'air est lourd de ton absence.
Eh ben voilà. Mylène Farmer, L'âme dans l'eau, dont l'original est ce que nous avons écouté juste avant, c'est How I Became the Bomb, et ça s'appelle Ouléo, et il y a une vidéo à aller voir que je vous conseille vraiment, avec le travail d'une artiste qui, dont le nom ne revient pas, mais qui avait décidé qu'elle resterait dans un musée, qu'elle s'assirait et qu'elle laisserait les gens venir s'asseoir en face d'elle et qu'elle les regarderait, puis qu'elle fermerait les yeux, que les gens partiraient, viendraient, et ainsi de suite. Et puis un jour, cette vidéo montre que la personne qui s'est assise devant elle à l'instant T du film, eh bien, c'était son ancien amoureux, et évidemment avec plein d'émotions, donc une très très belle vidéo que je vous conseille d'aller voir. Oh, How I Became the Bomb. Merci Mylène. Quasar on the air, Radio G 101.5, c'est l'émission de Quasar, 20h32, vous êtes dans votre canapé, en train de conduire, en train de faire la vaisselle, soyez toutes et tous les bienvenus. Nous parlons de la stratégie, des chiffres du 1er décembre 2021 pour l'année 2020, évidemment, puisqu'il y a toujours une année d'écart, et nous avons comme invité qui nous a rejoint, et on le remercie encore, Éric Billot, qui est le président du Corévi, dont nous avons parlé juste auparavant. Alors Éric, ce que je vous propose, c'est que nous continuions notre échange sur cette thématique VIH, IST et des publics surtout. Alors si on applique ce qui s'est passé sur la communication des résultats 2020, c'est-à-dire moins 22% de nouveaux cas de contamination VIH, moins 17% de dépistage, est-ce que sur les Pays de la Loire, on constate la même tendance, la même courbe, ou il y a quelques différences ?
Alors, on constate effectivement la même tendance, donc une baisse du dépistage, mais avec des résultats un peu différents, à savoir que dans les pays de la Loire... Alors, en France, on note une diminution de la découverte de séropositivité marquée chez les femmes hétérosexuelles, notamment d'Afrique subsaharienne. Et c'est quelque chose qu'on retrouve moins dans les Pays de la Loire. Les Pays de la Loire, il y a toujours une forte prévalence de l'infection chez les personnes migrantes. Alors, on a, en 2020, on a 108 nouveaux patients, c'est-à-dire des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient séropositifs, et qui ont découvert cette infection. C'est un petit peu moins que les années précédentes. Alors, est-ce que on va avoir un rebond cette année ou l'année prochaine? Est-ce que c'est une tendance forte? Je ne sais pas. Est-ce que c'est uniquement lié à la migration? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut dire quand même qu'il y a encore des gens pour lesquels on retrouve la séropositivité. Et il faut voir que ces gens... ont souvent plusieurs années de séropositivité sans le savoir derrière eux. Et donc ont pu contaminer d'autres personnes. On estime également qu'il y aurait entre 500 et 600 personnes dans les Pays de la Loire qui sont séropositives et qui ignorent leur séropositivité.
Ça c'est vrai. Ça, c'est vraiment un chiffre important. Hein.
Et c'est important. Alors, c'est... probablement aussi, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que le public gay qui sait qu'il prend des risques se dépiste. Donc en général, il n'y a pas de souci. Ceux qui se dépistent moins et qui sont plus à risque, c'est les jeunes, parce qu'ils n'ont pas encore cette habitude de recourir au dépistage. Peut-être qu'ils n'ont pas conscience non plus de l'existence de cette maladie et de sa gravité. Et puis, il y a un autre public qui est intéressant, je pense, c'est les personnes qui sont, moi, que j'appelle les hétéro-curieux ou les hétéro-flexibles, c'est-à-dire des gens qui ne se reconnaissent pas appartenant à une communauté homosexuelle, ne se reconnaissent pas comme étant à risque, et du coup laisse passer cette opportunité de faire un dépistage. Et donc, il est probable qu'il y ait une bonne partie des personnes qui soient dans cette catégorie qui fassent partie de ceux qu'on ne connaît pas encore.
Donc, on voit. Alors, une petite curiosité quand même, je ne veux pas chipoter sur les chiffres, mais dans le bulletin de santé publique de la région, j'ai bien vu 108 nouveaux cas de contamination, mais en réalité, 104 simplement sont suivis. Qu'est-ce qui se passe pour les 4 autres personnes, en gros ? Qu'est-ce que ça peut être comme raison ?
Alors c'est, excusez-moi.
Non, hein, je vous en prie, c'est la vie. C'est la vie.
J'essaie de me mettre à l'abri. En fait, ce sont des gens qui ont été découverts sur le territoire, les 108.
Oui.
Et les 104, c'est ceux qui sont suivis dans la région.
D'accord.
Et donc, il peut y en avoir 4 qui ont été découverts sur le territoire et qui, actuellement, sont suivis ailleurs.
Dans une autre région.
À Paris ou en Bretagne, ou voilà.
Ça peut être ça, effectivement, l'explication de cette petite différence. Mais ça n'avait pas d'importance. Mais en tout cas, c'est bien aussi de se dire que la réalité de la découverte, bah, c'est celle-là. C'est qu'on peut être découvert et que la séropositivité peut se révéler à l'occasion d'un dépistage dans une région, et puis on habite autre part, et puis voilà, d'accord, ok.
Et on peut vivre dans une région et se contaminer ailleurs.
Exactement, ça fait partie aussi des possibilités. Parmi les chiffres qui sont inquiétants, en tout cas pour 2020, c'est le constat qu'il y a une augmentation tout de même un peu sensible des découvertes de séropositivité, mais sur le long terme, c'est-à-dire que les gens ont mis beaucoup de temps entre leur contamination et le fait d'être dépisté positif pour entrer dans les traitements et être indétectable. Ça, c'est un élément que vous avez constaté aussi ou pas ?
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle les diagnostics tardifs.
C'est ça.
C'est-à-dire chez des personnes qui ont déjà un déficit immunitaire bien établi. Alors c'est péjoratif à deux raisons. D'une part parce que pendant toute cette période d'ignorance de sa séropositivité, on peut transmettre le virus aux personnes qui prennent pas la PrEP.
C'est bien ça. Oui.
et l'autre point, c'est que plus on traite tôt, moins le système immunitaire a été abîmé pendant toutes ces années. Et meilleur le pronostic sera par rapport à certaines pathologies. Et donc, on a tout intérêt à traiter le plus tôt possible pour éviter que le virus ait fait déjà trop de dégâts. En termes de comorbidité, on a moins de risques quand on les traite tôt. Donc il faut véritablement encourager le dépistage le plus tôt possible.
Je reviens sur un point que vous échangiez tout à l'heure et que vous nous disiez. Peut-être que le public n'est pas assez informé, pas parce que c'est par nécessité, mais juste pour bien comprendre comment la chaîne déclarative se fait. C'est-à-dire que tout médecin qui dépiste une personne, et que si le résultat est positif, il a une obligation de déclaration via un circuit formaté. C'est bien ça ce que vous vouliez dire tout à l'heure.
Alors, oui, il y a la déclaration obligatoire, c'est deux volets. Il y a un volet biologiste, donc toute sérologie, nouvelle sérologie positive, il va y avoir un biologiste qui va faire une déclaration, et en faisant sa déclaration, on va attribuer à cette déclaration un numéro d'anonymat, de façon à ce qu'il n'y ait pas de traçage possible.
Oui.
Mais par contre, lorsque le clinicien va voir cette personne, il va falloir essayer de faire le lien entre les deux avec le biologiste pour que la déclaration soit commune et ne fasse qu'une déclaration.
D'accord.
Et donc, là encore, on est sur une difficulté parce que c'est lié à l'anonymat et au fait qu'on ne peut pas tracer la personne.
Bien sûr. Alors, si maintenant on se projette dans les outils dans les pistes pour finalement faire de 2021 des résultats plus fiables, parce que même si impacté par la pandémie de Covid, de coronavirus, quelles sont les pistes? Je pense à une notamment qui est en train de se mettre en place, au moins deux peut-être, c'est les labos sans ordonnance pour faire un test, vous allez pouvoir nous en parler, et puis la PrEP depuis peu par les médecins de ville. Quelles sont les difficultés, la possibilité de les mettre en place?
C'est marrant parce que j'allais prendre ces deux exemples.
Ah bah oui, comme quoi les grands esprits.
Effectivement, alors d'une part, la PrEP en ville, ça c'est quelque chose que beaucoup attendaient, parce qu'en fait les circuits hospitaliers sont souvent saturés.
Oui.
Parce que avec le Covid, avec tout le travail, quand on connaît l'état de la santé et de l'hôpital en France, on ne peut pas ignorer que il y a des soucis et que une activité supplémentaire c'est compliqué à mettre en place. Cela dit, tous font de leur mieux, je pense. Mais l'idée est venue, et je pense que c'est une bonne idée, de dire il n'y a pas de raison que des médecins généralistes ne puissent pas, les médecins généralistes ou n'importe quel autre médecin, ne puissent pas prescrire la PrEP et assurer son suivi. Parce que jusqu'à présent, il fallait une prescription hospitalière, une première prescription hospitalière pour que le suivi puisse être assuré par le médecin de ville, le cas échéant.
Mais il faut que le médecin en question soit formé, au moins connaisse parfaitement le déroulement, le principe de la PrEP, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde, c'est cela en gros.
Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais au Corovi, on a fait un webinaire mardi dernier.
Je confirme.
Pour expliquer un petit peu et lancer les choses, et ce webinaire sera téléchargeable par les médecins qui souhaitent s'y lancer. Et puis il y a une formation qui est une formation pas diplômante, mais qui permet d'en faire état, et qui est gratuite et qui est en ligne et qui permet à tout médecin qui souhaite le faire de se mettre à jour de comment ça fonctionne et quelles sont les procédures à faire.
Donc ça vient. Alors maintenant, si on parle des labos, ça c'est une nouveauté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le quotidien de tout un chacun, cette prise de sang et ce diagnostic en labo? C'est celui qui fait le prélèvement, qui va donner le résultat, c'est immédiat, c'est envoyé. Comment ça va se passer?
Alors, le labo sans ordo, c'est une expérience qui a été mise en place par les Alpes-Maritimes et l'Île-de-France. L'idée, c'était de dire, on demande au laboratoire d'accueillir des gens qui viennent sans ordonnance, et s'ils veulent une sérologie VIH, on leur fait, et elle est prise en charge gratuitement. Donc, cette expérience a été mise en place et le résultat a été plutôt positif, dans la mesure où c'était pas un détournement de clientèle de la part des CEGID ou des médecins généralistes, mais c'était des sérologies en plus qui étaient faites.
Voilà.
Donc, c'était une offre complémentaire et non pas une offre substitutive. Et donc ça, c'était particulièrement intéressant. Et du coup, dans le cadre de la stratégie nationale de santé sexuelle, et à partir de janvier, normalement, si le PLFSS est accepté et entériné par le Sénat, là, parce qu'il est bloqué pour l'instant, mais bon, on a de bons espoirs quand même, normalement, au mois de janvier, on pourra aller dans un laboratoire, dire bonjour, je voudrais une sérologie VIH. Et le laboratoire, qui a l'habitude de faire des sérologies sur prescription, là, pourra la faire. Elle sera prise en charge et il pourra rendre le résultat. Alors la question, c'est, est-ce que ces laboratoires sont formés pour rendre des résultats de ce type? C'est vrai que on a beaucoup comment dire, insister sur le fait que annoncer une séropositivité, c'était quelque chose d'important, qui engageait la vie future de la personne, qui pouvait la déstabiliser et qu'il fallait pouvoir l'accompagner. Voilà. C'était d'autant plus vrai il y a quelques années, à l'époque où il n'y avait pas de traitement et où on annonçait quand même le décès de la personne. Actuellement, quand on annonce une séropositivité, c'est presque une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a pris un risque, on a eu la malchance d'attraper la maladie. Mais la bonne nouvelle, c'est que on le sait maintenant et qu'on va pouvoir bénéficier d'un traitement qui va nous permettre de vivre normalement. Donc c'est quand même un petit changement de paradigme qui fait que je crois qu'il faut un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a encore des gens qui restent très marqués par leur annonce, mais un petit peu dédramatiser ce côté-là. Après, pendant cette expérimentation au Labo Sponsor d'eau, il a été proposé une navigation, c'est-à-dire que à partir du moment où il y avait une positivité, il y avait un numéro de téléphone qui permettait de au laboratoire de d'adresser la personne rapidement pour un suivi, une prise en charge, etc. Bon, je pense que c'est important. Mais ça peut être fait sous différentes formes. Ça peut être un numéro de téléphone unique national. Ça peut être également chaque labo qui connaît la structure de proximité qui va pouvoir prendre en charge le patient et qui l'appelle rapidement. Tout ça peut être mis en place assez facilement, je pense.
D'accord.
Et ne devrait pas poser de complications. En tout cas, je pense que dans les Pays de la Loire, c'est un peu l'orientation qu'on aimerait prendre, c'est dire, voilà, chaque labo, on va les contacter, on va les mettre en relation avec la structure de telle sorte qu'ils se connaissent. D'accord. Déjà. Et que ils n'hésitent pas à prendre rendez-vous pour la personne très rapidement et adresser au bon endroit.
Donc vous nous expliquez cette future prochaine application dans les Pays de la Loire comme partout en France, normalement à partir de janvier 2022, Labo sans ordo. Un grand merci pour ce long temps que nous vous avons confisqué ce soir et que vous avez, auquel vous avez répondu fort sympathiquement. Merci Éric Billot, je rappelle que vous êtes médecin infectiologue au CHU de Nantes, que vous êtes le président du Corévi, que nous parlions des résultats autant nationaux que dans les Pays de la Loire sur les chiffres 2020 de l'épidémie à VIH, avec ces chiffres à retenir, moins 22% de nouveaux cas, mais aussi moins 17% de dépistage. Un grand merci et très bonne soirée à vous. Et puis on se dit au 16, hein, si j'ai bien compris, avec la plénière du Corévi. C'est bien ça. Merci, bonsoir.
Bonne soirée et bon dépistage.
Merci, voilà. Et bien justement, il a le sens de la transition, Éric Billot. Nous allons parler dépistage avec Florian. Rebonjour, Florian.
Rebonjour.
Alors, tu es venu aussi pour nous parler de ce que Aide fait parmi ses diverses activités. C'est effectivement le dépistage et le dépistage sous forme de TROD. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà, cet acronyme ?
Alors, le TROD, c'est le test rapide d'orientation et diagnostic. Et donc, en fait, c'est un TROD donc VIH, mais pas que. Avec Aide, on a aussi le TROD de l'hépatite C.
Oui.
Et donc le TROD, donc le dépistage, en fait, le dépistage rapide, c'est un test qui se fait. Alors c'est pas une prise de sang comme en laboratoire par exemple, mm-hmm. ou au CGID puisqu'on en a parlé
à l'instant.
C'est juste une petite piqûre en fait au bout du doigt et on prélève quelques gouttes de sang en fait, une certaine quantité minime de sang qu'on met dans un réactif en fait et ça nous donne un résultat positif ou négatif.
Donc vous jouez au boucher, quoi, c'est bien ce que j'ai compris. Non, pardon.
On ne charcute pas les gens.
Merci. C'est quasiment indolore.
C'est quasiment indolore, voilà. C'est comme si vous piquiez avec une épine de rosier, en fait, voilà. Malencontreusement.
On n'aime pas, mais là, pour le coup, ça vaut le coup, quoi.
Tout à fait. Et en plus, ça ne dure pas forcément très longtemps.
Et en plus, c'est stérile et on ne risque pas de s'infecter, contrairement à une épine de rosier.
Oui, c'est ça, voilà. Effectivement. On passe d'abord un petit coup
de désinfectant
avant.
Et ce qui pique est parfaitement neutre. On est bien d'accord.
Tout à fait.
Ça, c'est bien parti.
Non, non. Et donc, ça ne dure pas très longtemps non plus, hein, c'est-à-dire que ça dure entre une demi-heure et trois quarts d'heure en fait, pour avoir le résultat, mais aussi tout ce qu'il y a autour du test, qui est un pré-entretien avec la personne avant, et puis un entretien qu'on appelle post-test, derrière on revient sur certaines choses, si la personne a des questions, et puis sur l'annonce du résultat en tant que tel aussi.
D'accord. Ce qui veut dire que si le résultat est négatif, vous allez avoir un échange sur, on va en parler tout à l'heure, la santé sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis par contre, si le résultat est positif, c'est peut-être de dédramatiser et puis d'orienter.
Alors, effectivement, c'est le fait aussi d'accompagner la personne. Donc sur le moment, effectivement, si c'est une orientation, si c'est un résultat positif, on revient aussi sur les choses. On réexplique qu'est-ce que ça veut dire. On explique qu'il y a des possibilités d'accompagnement. Alors, en physique, par l'assaut aide, on peut aussi très bien orienter aussi vers d'autres structures et orienter surtout vers le CHU, vers le service des maladies infectieuses, donc de l'hôpital de la ville en fait, hein, pour une confirmation du résultat, puisqu'on ne fait qu'une orientation en fait, et il faut absolument une confirmation de ce résultat positif.
Alors, on parle bien au CHU du service des maladies infectieuses et tropicales, ce qui donne la chronique SMIT, si vous cherchez sur les plans de l'hôpital. Voilà.
Effectivement. Donc voilà, donc il y a une confirmation, et puis il y a ce travail d'accompagnement derrière, et puis d'explication aussi à la personne, et puis de voir aussi avec elle comment elle souhaite faire aussi, puisqu'on fera forcément avec la volonté aussi de la personne, et comment elle envisage les choses à court terme et à moyen terme aussi, en fonction d'elle, de son entourage, de sa vie personnelle ou professionnelle.
Alors, je fais une insiste tout de suite pour dire les choses quand même. On a parlé du SMIT, donc du service des maladies infectieuses et tropicales. On rappelle que ça se trouve dans le bâtiment Hirondelle, et juste à côté, dans la forme de L du bâtiment, il y a au rez-de-chaussée le Cégide, le SMIT étant sur rez-de-chaussée plusieurs étages. Et si vous ne vous repérez pas dans le CHU, c'est très simple, vous cherchez l'héliport. Et quelquefois, l'hélicoptère est là, il est tout jaune. Il monte. Alors, c'est très, très bizarre. Hein, quand il décolle, il a une forme de péripétie. On l'a vécu ce lundi en allant en réunion. Et bref, c'est très, très spectaculaire. On ne comprend pas pourquoi il recule d'abord pour avancer après. Enfin, bref, je ne sais pas. Est-ce qu'il prend l'air? Est-ce qu'il s'envole? Bref. Je referme l'incise. On en revient au TROD. Vous piquez, vous avez le réactif, vous avez le résultat sous peu, vous donnez le résultat, selon le résultat, il y a des indications qui sont données. Maintenant, si on revient sur la terminologie de santé sexuelle, ça veut dire quoi dans ce cadre-là, pour vous, Ed, en règle générale?
Alors, on a le principe de prendre la santé sous un aspect global, en fait, de prendre en compte tout ce qu'est la personne et sa santé globale. La santé sexuelle fait partie de la santé globale. Et donc, on va revenir sur, effectivement, le VIH, sur les hépatites, sur les IST, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure aussi. Même si on ne fait pas forcément le dépistage de ces IST, on va orienter forcément et on va accompagner aussi sur sur ce que c'est, sur ce que ça représente et sur ce que la personne connaît aussi de toutes ces infections sexuellement transmissibles. Et voilà. Et on va aussi prendre en compte le besoin aussi des personnes. C'est-à-dire qu'on va pas calquer un modèle de protection ou de prévention qu'on voudrait nous. Voilà un truc assez assez carré. On va proposer en fait toute une palette et des outils en fait de protection, de prévention, et c'est la personne qui va, en fonction de ce qu'elle connaît d'elle et de ses pratiques, c'est elle qui va choisir dans cette palette là si elle fait un dépistage, si elle fait un TPE, un traitement post-exposition, traitement d'urgence par exemple, si elle prend la PrEP, ou si elle préfère utiliser le préservatif tout le temps. Enfin voilà,
On rappelle une chose, les TROD, on est bien d'accord, c'est VIH et hépatite C. On est d'accord pour dire que pour l'instant, est-ce qu'il existe des TROD pour les IST?
Oui.
Mais vous, est-ce que vous les pratiquez?
Alors, nous, à Aide, on n'en fait pas encore.
Alors, explique-nous pourquoi ça existe, pourquoi vous, vous n'en faites pas. Ça veut dire quoi, le fait? C'est pas une critique, c'est juste pour comprendre. Hein.
C'est la législation qui est comme ça. En fait, il y a des textes législatifs et réglementaires qui font qu'on a obtenu, à partir de 2011, en fait, que les associations puissent faire du dépistage rapide sur VIH. Oui. Puis, ça a été étendu à l'hépatite C, mais il n'y a pas un texte général qui dit que les associations peuvent faire du dépistage rapide. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau test qui arrive, on est obligé de refaire un règlement, enfin une règle, qui, pour rajouter telle et telle infection, en fait, sur toute la liste des...
Est-ce que ça veut dire qu'un jour, vous les ferez éventuellement, ces trods-là?
Ça veut dire qu'un jour, je pense, à moyen terme, on fera, légalement ou pas, d'ailleurs, on fera ces tests-là, parce qu'on se rend compte que c'est important que ces tests rapides, même si on reste à des niveaux de tests assez faibles hein, par rapport aux tests qui se passent en Cégide ou en laboratoire, enfin les sérologies qui sont en Cégide ou en laboratoire, ils ont un vrai impact. C'est-à-dire qu'on découvre beaucoup de personnes séropositives au sein même des communautés et au sein même des publics qui sont les plus exposés en fait au VIH et aux hépatites. C'est tout l'intérêt du dépistage. C'est pour ça qu'on vient à Quasar aussi sur un public assez ciblé, en fait.
Oui, communautaire.
Voilà, tout à fait. C'est vraiment le principe de vraiment cibler et de ne pas faire du généraliste et de dépister tout le monde, au final. Ce qui a ses limites aussi.
On est d'accord. Donc là, on est bien d'accord. Samedi après-midi, c'est le public LGBT et c'est vraiment les quatre lettres. C'est-à-dire que même si les lesbiennes ne sont pas la population à risque la plus importante sur le VIH, si elles se présentent, elles seront accueillies, les trods seront pratiqués. C'est vraiment une volonté parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que la santé des lesbiennes, au prétexte que les populations à risque plus seraient les HSH, il faut quand même les prendre en compte, comme les personnes trans. C'est-à-dire que la transidentité est une question de genre et pas une question d'orientation sexuelle. Donc c'est ouvert à toutes les situations et à toutes les situations de vie et d'orientation aussi.
Et puis, au-delà du dépistage, il y a aussi la discussion que la personne aura avec le militant ou les militantes de l'asso, qui fait qu'on revient sur plein de choses et qu'on parle santé sexuelle, effectivement.
Et voilà, c'est ouvert sur une totalité, une globalité. Oui. Avant de nous quitter, parce que l'heure tourne tellement vite et ça a été tellement passionnant, détaillé avec Eric Billot, l'activité de Aide très freinée par le Covid, comment est-ce que vous vous en sortez? Comment est-ce que vous pouvez justement être dans une dynamique de plus de dépistage, à part notre samedi après-midi, évidemment?
Alors oui, effectivement, l'année 2020 a été fortement impactée quand même par les activités. Alors, sur donc les locaux en général ont été fermés, sauf dans certaines parties quand on avait des carudes, en fait, les centres d'accueil pour les usagers de drogue par exemple. Ça a continué sous forme de distribution, en fait. Alors on a click and collect, enfin voilà, on a essayé de mettre en place des choses comme ça où les personnes venaient récupérer sur rendez-vous sur place, mais sinon ça a été très freiné. Effectivement, on a fait quand même je pense moins 30% de dépistage, voire plus. 2021, ça a repris quand même pas mal. On a essayé de rattraper en tout cas le retard. Est-ce que ce retard est rattrapable? Ça, je ne sais pas, je suis pas sûr, mais oui, ça a été freiné effectivement. Et on espère que 2022 sera moins encore impacté que là.
Eh oui, ça
même
c'est...
si les nouvelles ne sont pas forcément terribles, mais bon...
On va voir on verra. Omicron et d'autres qui, de toute façon,
en tout cas, on fait en sorte de trouver des solutions pour rester au contact des personnes.
Des publics.
Et des publics qui en ont le plus besoin. Voilà.
Donc, grand merci d'être venu au micro de Quasar Anzière nous expliquer tout ça, Florian.
Merci.
Grand merci aussi à Eric Billot, donc le président du Corévi. Donc, on se dit que très exactement, alors pour être vraiment, mais alors le plus précis du monde, c'est 13h30 dans les locaux de Quasar. Ce sera de 13h30 pour être précis, de 13h30 à... écoutez, je crus noter 16h30, voilà, c'est ça. Et ce sera donc une après-midi de dépistage avec l'association Aide. On note, on le dit à tout le monde, que c'est en partenariat avec le collectif Luciole, avec Contact, avec Tonix et avec le planning familial. On les en remercie vivement. On vous souhaite une très très belle soirée. À dans 15 jours, Quasar Anzière sur Radio G. Portez-vous bien, on vous aime et protégez-vous et dépistez-vous.
Surtout.
Ciao, bye.
Radio G 101.5 FM. Yes.